Il est 18h sur France Culture, le journal, Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Félix Tshisekedi n'est pas le vrai vainqueur de l'élection présidentielle en RDC. L'accusation ne vient pas seulement du candidat malheureux, Martin Fayoulou. Elle est relayée par un groupe de médias dont fait partie RFI, qui s'appuie sur des fuites exceptionnelles de documents. Précision d'Anthony Fouchard dans un instant. Les députés britanniques se prononcent ce soir sur l'accord de Brexit conclu avec l'Union européenne. Selon toute vraisemblance, le texte sera rejeté. Les entreprises redoutent le chaos. En France, le grand débat est lancé à Bourtroude, en Normandie. Maires et conseillers municipaux ont fait part des problèmes quotidiens des habitants à Emmanuel Macron. Et puis, nouvelle mobilisation d'avocats, magistrats et greffiers contre la réforme de la justice. Ils demandent que la question de l'égalité d'accès à la justice dans les territoires soit intégrée au grand débat. Les résultats de l'élection présidentielle en RDC étaient déjà largement contestés. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle de République démocratique du Congo examine en ce moment la plainte du candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, qui conteste la victoire de Félix Tshisekedi. Mais voilà que les fuites de documents viennent appuyer son accusation. Selon un groupe de médias, qui comprend notamment TV5 Monde, Radio France Internationale et le Financial Times, c'est bien Martin Fayoulou qui l'a emporté. Les explications d'Anthony Fouchard.
Les rédactions se sont procurées deux bases de données. D'abord, celle de la très influente Église catholique, qui avait déployé 40 000 observateurs dans tout le pays. Ensuite, une autre base de plus de 2000 pages, celle-ci, qui égrène les résultats site de vote par site de vote. Celle-ci proviendrait directement d'une source au sein de la CENI, la commission électorale, une source écœuré par le hold-up qui se prépare, rapporte notre consoeur de RFI à l'origine de l'enquête. Une mine d'informations issue directement des machines à voter électroniques utilisées pendant le scrutin. À ce stade de l'investigation, déjà une information dérange. Comment ces données électroniques, donc, ont-elles pu finir dans un document alors que, selon la loi électorale, seuls les bulletins papier devaient être comptabilisés? Cela accentue encore un peu plus les soupçons sur la neutralité de la commission électorale. Ensuite, les journalistes ont comparé les deux bases de données et les résultats, corrélés, sont éloquents. Ils donnent vainqueur Martin Fayoulou avec environ 60% des voix. Si l'on se fie à ces données, c'est donc bien lui le vainqueur de la présidentielle et non pas Félix Tshisekedi. Mais près de 3 millions de bulletins en sa faveur ont disparu entre la compilation et l'annonce des résultats provisoires. Un pavé dans la mare, alors que la Cour constitutionnelle étudie à partir d'aujourd'hui les recours déposés par les candidats malheureux à l'élection.
Anthony Fouchard. Au Kenya, un commando d'islamistes radicaux s'est attaqué à un complexe d'hôtels et de bureaux à Nairobi. Une forte explosion a été suivie par des tirs nourris. Il y a au moins 5 morts. Les attaquants sont des chebabs somaliens qui opèrent fréquemment de cette façon à Mogadiscio. Laurent Gbagbo est libre. L'ancien président de la Côte d'Ivoire était accusé de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains, comme l'était Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes. Les deux hommes ont été acquittés par la Cour pénale internationale, un verdict qui fait beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire, comme en témoigne le reportage d'Amandine Réau à Abidjan.
Dans les rues de Yopougon, une commune populaire d'Abidjan, les supporters de Laurent Gbagbo sont survoltés. Désormais, ils n'attendent qu'une chose, le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président.
Si vraiment il a été libéré, on veut le voir chez nous.
Véritablement, c'est lui qui va faire réconciliation. On ne veut pas de violence. On fait la joie seulement. Et puis on rentre dans nos maisons.
Pas de violence, assure cette partisane. Pourtant, la crise de 2010 hante encore beaucoup d'Ivoiriens.
Bon, moi, j'aime pas la politique. Je veux seulement la paix. Tout le monde soit à harmonie. J'ai peur de la violence. En 2010, ce qui s'est passé, vraiment, c'est trop délicat. Donc, je ne veux plus que ça se représente.
Pour Issiaka Diaby, président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, la décision de la Cour pénale internationale traumatise les victimes. Il craint que le scénario de 2010 se répète lors de la présidentielle de 2020.
Il ne faudrait pas que cette décision soit considérée, je m'excuse sur ce thème, comme étant un permis à tuer délivré à d'autres auteurs de crimes. 2020 inquiète les victimes, inquiète les populations ivoiriennes.
Les Ivoiriens attendent donc la décision définitive. Lors de l'audience de demain, le procureur pourra faire appel. Si la décision est suspendue, Laurent Gbagbo ne bénéficierait que d'une liberté conditionnelle.
Ce verdict met en lumière la difficulté, voire l'impossibilité de juger des criminels de guerre devant la Cour pénale internationale. C'est ce que nous dit Florent Gel, responsable du bureau Afrique de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme.
Il y a un principe qui est en train d'être remis en cause par les juges de la CPI et qui est pourtant fondamental, c'est la question de la responsabilité du supérieur hiérarchique. En quelque sorte, la justice internationale, elle est basée sur l'expérience des guerres en Yougoslavie, c'est-à-dire que prouver que le commandant en chef a ordonné tel ou tel plan, c'est extrêmement compliqué. Si vous n'avez pas de documents d'ordre écrit, comme c'est la plupart du temps le cas en Afrique et ailleurs. Et donc, du coup, vous dites, en gros, tous les crimes qui ont été commis sous votre commandement, si vous n'avez pas été capable de les empêcher ou si vous n'avez pas eu la volonté de les sanctionner après qu'ils aient été commis, c'est qu'en fait, c'est vous qui les avez ordonnés. Et donc, vous êtes en fait solidaire des crimes qui ont été commis par vos subordonnés et vous en êtes responsable. C'est ce principe-là qui a été balayé par les juges de la CPI à travers ces deux décisions, Bemba et Gbagbo aujourd'hui, et Blegoudé. Il n'est pas exclu non plus que les juges ont voulu compenser l'instrumentalisation politique de la Cour par certains États ou par l'ancien procureur en rendant cette décision également. La difficulté de la justice internationale, c'est de lutter contre l'impunité des puissants tout en respectant le droit, et c'est un chemin compliqué, ardu, délicat, extrêmement technique pour ne pas non plus affaiblir la cause que l'on défend.
Florent Gel de la FIDH, interrogé par Valérie Crova. Un vote déterminant ce soir au Parlement britannique. Les députés vont se prononcer sur l'accord de divorce conclu entre Theresa May et l'Union européenne. Et malgré tous les efforts déployés par la Première ministre, malgré la lettre de l'Union européenne publiée hier et destinée à apporter des garanties supplémentaires, c'est le non qui se profile. L'inconnu étant plutôt l'ampleur de la marge avec laquelle Theresa May va perdre ce vote. On retrouve à Londres notre correspondant Antoine Gignot. Antoine, le monde économique est très inquiet à la perspective d'un Brexit sans accord. Et les entreprises s'affolent.
Oui, le responsable de la CBI, la principale organisation patronale, parle même de situation d'urgence nationale. Il est très peu probable, dit-il, que Theresa May arrive à faire valider son texte et un Brexit sans accord causerait des dommages irréparables à l'économie britannique. Parmi les plus inquiets, les constructeurs automobiles, l'avenir de l'industrie est entre les mains des parlementaires, explique le directeur de l'association qui regroupe les différentes firmes britanniques. Il y a des milliers d'emplois en jeu. Même inquiétude sur les marchés financiers. La livre recule légèrement cet après-midi et reste très volatile. Les flux de capitaux montrent que les investisseurs britanniques liquident massivement leurs avoirs à l'étranger. Plusieurs établissements bancaires s'attendent à des remous. Et pour éviter d'être submergés, la plateforme WeTransfer, qui permet de convertir des devises et d'envoyer de l'argent entre le Royaume-Uni et le continent, a même décidé ce soir de limiter le montant des envois à 10 000 livres sterling maximum.
Antoine Gignot, en direct de Londres. Quand l'Union européenne a décidé de réautoriser le glyphosate pour 5 ans, elle s'est appuyée sur un rapport constitué pour l'essentiel de plagiat et de copier-coller. Voilà ce qu'ont mis en évidence deux chercheurs sollicités par des députés européens. Ils montrent que ce rapport, fourni en 2017 par l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, reprenait mot pour mot les arguments fournis par Monsanto pour défendre le glyphosate. L'ONG Génération Future fait part de son indignation. Écoutez son directeur et porte-parole, François Veillerette.
Sur la base de ces parties plagiées, on a l'impression que le glyphosate est sans danger. Ça permet après aux agences de dire le produit n'est pas dangereux, on peut l'homologuer. Et ça, c'est vraiment scandaleux d'en arriver là. Je pense que la situation au niveau légal est absolument douteuse, puisqu'il y a une obligation pour l'agence d'analyser les études scientifiques parues les 10 années précédentes. Or, quand elle se contente de faire un copier-coller de l'avis de l'industrie sur ses études universitaires, vous vous doutez bien que les industriels en question, ils ont tout fait pour déconsidérer les études universitaires et dire qu'elles n'étaient pas pertinentes ou pas de qualité. Et donc, à la fin du compte, aucune de ces études universitaires n'a été prise en compte dans les conclusions du rapport. On a porté d'ailleurs, nous, une plainte avec Génération Future sur la dérive donc de l'évaluation dans le dossier du glyphosate. Pour nous, il y a mise en danger d'autrui, il y a une tromperie aggravée par rapport à la qualité du produit. On peut voir là la marque de la puissance de le bien industriel de certaines firmes agrochimiques. Hein. Quelle est la nature de cette influence? C'est pas à nous qu'il appartient à juger. C'est pour ça qu'on a porté une plainte, c'est pour que la justice se penche sur ces questions-là et donne des explications beaucoup plus pointues.
François Veillerette de Génération Future, joint par Maxime Fayol. Mehdine Mouche n'est pas le tueur du musée juif de Bruxelles, affirment ses avocats. Au troisième jour du procès du djihadiste français pour l'attentat qui a coûté la vie à quatre personnes le 24 mai 2014, la défense a demandé au juré d'ordonner l'acquittement de Mehdine Mouche. L'accusé a brièvement pris la parole devant la cour d'assises de Bruxelles, mais c'était pour dire qu'il ne s'exprimerait pas tout de suite. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Marette.
Mehdine Mouche n'est pas le tueur, répète à plusieurs reprises, un peu comme un refrain l'un de ses avocats. Pour Maître Henri Lacaisse, c'est la science qui apporte la preuve de son innocence. La vidéosurveillance de la tuerie au musée juif de Bruxelles montre que le tueur manipule à trois reprises l'une des portes, qu'il n'a pas de gants. Plusieurs empreintes ADN et digitales sont prélevées deux heures plus tard par les enquêteurs. Aucune n'appartient à Mehdine Mouche, il ne peut donc pas être le tueur. La défense déroule sa version. Leur client a trouvé un sac contenant les deux armes, une kalachnikov et un revolver utilisé lors de l'attentat. Il a transporté le sac avec lui et il a ensuite été arrêté dans un car à Marseille par des douaniers lors d'une opération de routine. Maître Virginie Talman précise que son client n'a pas opposé la moindre résistance lors de son arrestation. S'il avait été le tueur, il ne se serait jamais laissé mettre la main au collet comme un garçonnet. Maître Sébastien Courtois dégaine ensuite sa théorie du complot. Il affirme que deux des quatre victimes, les époux Riva, travaillaient pour le Mossad. Deux personnes qui meurent dans un attentat que l'État islamique n'a jamais revendiqué. Sébastien Courtois, qui s'est spécialisé dans la défense des islamistes et des antisémites, sort le grand jeu, celui du mensonge global pour accuser à tort Mehdine Mouche. Mehdine Mouche qui reprend à son compte la théorie de sa défense. Il plaide non coupable et refuse d'en dire plus pour le moment.
Antoine Marette, à Bruxelles pour France Culture. Emmanuel Macron s'est rendu dans l'Eure pour donner le coup d'envoi du grand débat réponse présidentielle aux revendications des Gilets jaunes. Après une étape surprise dans la petite ville de Gagny, le chef de l'État est arrivé à Grand-Bourtroude, 3700 habitants, où l'attendaient quelques 600 maires normands réunis dans un gymnase. Et là, le chef de l'État s'est effacé pour laisser émerger la parole des élus, Anne Fauquemberg.
Oui, un débat qui a commencé avec un petit peu de retard. Emmanuel Macron n'a pas perdu de temps pour l'introduire. Introduction donc très courte pour donner l'esprit de ce grand débat.
Moi, je ne vais pas parler longtemps parce que l'objectif, c'est surtout de vous entendre et de manière très libre. S'il y a des questions, j'y répondrai. Donc, j'ai tout mon temps. La manière dont vous voyez les choses, les difficultés que nous avons aujourd'hui, mais aussi les solutions pour s'en sortir. Et en tant que vous êtes aussi les dépositaires d'attentes de nos concitoyens.
Et il y a tant à entendre, tant à déposer. Jean-Paul Legendre, par exemple, de l'Union des maires et des élus de l'Eure. Quand est-ce qu'on arrête la machine à broyer la proximité hostile devant le président, avec un lapsus révélateur autour de l'ISF et de la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Écoutez.
L'ISF, par tête d'habitant, moitié moins important pour une commune rurale que pour une grande collectivité, au-dessus de 100 000 habitants. DGF, qu'est-ce que j'ai dit ? Je voulais...
Rire, mais sans rire, car l'injustice fiscale, elle arrive en tête de la colère des Gilets jaunes qui inquiètent tant les maires réunis dans le département de l'Eure. Le maire de Brionne, Valérie Beriot, renchérit.
Est-ce que ce débat est entièrement libre sur la question de la fiscalité, de la juste redistribution des richesses, sans quoi on prend le risque, évidemment, dès le départ, de décevoir non seulement les maires, mais surtout la masse de nos concitoyens.
D'autres préoccupations se déposent, la question des services publics avec l'exemple de la maternité de Bernay menacée de fermeture, le problème posé par les vastes intercommunalités créées par la loi NOTRe, la question du haut débit dans les zones rurales. Emmanuel Macron répond point par point en ce moment même, et sur l'ISF, ce n'est pas un tabou ni un totem, dit le président. On veut toujours trouver un coupable, mais il ne faut pas se raconter des cracks, ce n'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il y a un an et demi que ça changera la situation d'un seul des Gilets jaunes.
Anne Fauquemberg en direct de Grand-Bourtroude dans l'Eure. Le grand débat, c'était évidemment le thème principal des questions au gouvernement, Stéphane Robert. Les députés ont interpellé le Premier ministre en particulier sur le cadre de cette consultation.
Oui, à l'Assemblée nationale cet après-midi, de nombreux députés de l'opposition, à l'image de Dominique Potier pour le Parti Socialiste ou Virginie Duby-Muller pour les Républicains, ont indiqué qu'ils allaient répondre favorablement à la main tendue d'Emmanuel Macron.
Chez les Républicains, notre position est claire, nous y contribuerons.
Le groupe socialiste apparenté a pris la décision de s'engager dans le grand débat national qui est ouvert.
Ça ne les a pas empêchés d'émettre un certain nombre de craintes et de réserves sur la manière dont ce débat s'organise.
Pourquoi avoir exclu des sujets aussi importants que cette réforme du capitalisme financier ?
Grand débat national, oui, mais encadré par une lettre du président qui précise déjà que les grandes orientations de sa politique ne changeront pas après le débat.
Pour leur répondre et tenter de les rassurer, le Premier ministre, Édouard Philippe.
Un bon débat est forcément un débat avec des règles et un débat avec un cadre. Il ne s'agit pas de remettre en cause la forme républicaine du gouvernement. Il ne s'agit pas de remettre en cause ce sur quoi le président de la République s'est engagé au moment de l'élection pour une raison simple. C'est que remettre en cause les fondements même des engagements pris par le président de la République au moment de l'élection, ce serait nier la légitimité issue de cette élection.
Autrement dit, on va pouvoir parler de tout, mais pas de n'importe quoi. Et s'y apparaît dans ce débat la question de la limitation de la vitesse sur les routes à 80 km/h, a interrogé le député Les Républicains Vincent Descoeur. Va-t-on pouvoir en parler sérieusement et envisager toutes les options ?
Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à accepter le principe de l'adaptation de la limitation de vitesse à 80 km/h au cas par cas ?
Cette fois, ce n'est pas le Premier ministre qui s'est avancé pour répondre devant l'hémicycle. C'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Cette mesure, vous le savez, n'a qu'un seul objectif, sauver des vies. Et en cela, oui, nous pourrons débattre aussi des 80 km/h, mais sur des éléments objectifs. Ceux de la sécurité et des vies sauvées.
À la lumière des réponses apportées cet après-midi par les membres du gouvernement à l'Assemblée nationale, il apparaît que quelques ajustements seront sans doute nécessaires pour ne pas donner le sentiment que l'exécutif a déjà les réponses aux questions qui seront soulevées par les Français.
Merci Stéphane Robert. Des milliers de robes noires, avocats, magistrats et greffiers ont manifesté cet après-midi dans Paris jusqu'au Palais Bourbon. Ils réclament encore une fois la suspension immédiate de l'examen du projet de réforme de la justice qui arrive ce soir en deuxième lecture à l'Assemblée. Les professionnels demandent aussi maintenant que ces questions soient intégrées au grand débat national. Mathilde Lemaire a rencontré maître Jérôme Diroux. Il est bâtonnier de Bordeaux où le tribunal d'instance est menacé par la réforme.
Avec ce projet de loi, suppression des tribunaux d'instance, c'est-à-dire suppression pour les justiciables d'un juge à proximité de leur domicile. Beaucoup de justiciables, des personnes sous tutelle, des personnes sur un délai, devront faire 100 à 200 km pour retrouver un tribunal de grande instance, pour aller divorcer, pour un procès prud'homal. Le deuxième aspect nocif de ce projet de loi, c'est l'hyper-numérisation de la justice. Toute personne qui va devant un juge le sait, c'est compliqué. Il y a des règles de procédure, il y a des règles de délai, il y a des règles de prescription, c'est excessivement encadré. On va ajouter à cette complexité la complexité numérique. Vous allez devoir aujourd'hui, pour une saisie du tribunal d'instance, vous heurter à ces problématiques numériques d'un ministère de la justice qui est en plus sous-équipé. Donc voilà pourquoi on se bat, c'est pour une justice pour tous, une justice qui est un élément de cohésion sociale et on a très peur que demain, avec ce projet liberticide, on se retrouve dans une société sans loi, sans foi et sans juge pour pouvoir la réguler.
Jérôme Diroux, bâtonnier de Bordeaux. L'Agence nationale de sécurité du médicament a infligé une sanction financière à MSD France, qui appartient au groupe Merck. Le laboratoire pharmaceutique se voit infliger une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros pour sa mauvaise gestion de la rupture de stock d'un médicament anti-Parkinson. Bonsoir, Tara Schlegel.
Bonsoir.
La pénurie de médicaments est un problème récurrent qui, en France, est loin d'être réglé.
530 médicaments manquent, l'industrie en a conscience. C'est un sujet absolument prioritaire, dit ce matin le syndicat des entreprises du médicament, le LEM, qui prévoit un plan d'action sans donner encore le détail. Son président Philippe Cheng esquisse des pistes d'amélioration.
Alors, ce que nous souhaitons au LEM, c'est bien circonscrire les produits prioritaires qui seraient d'intérêt sanitaire et stratégique, qui devraient faire l'objet de production en Europe ou en France, afin d'en sécuriser la disponibilité.
Or, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, rappelle en écho Pierre Chirac, rédacteur à la revue Prescrire, sont déjà listés, mais pas par les entreprises.
On voit clairement qu'elles ont envie de, probablement, j'imagine, de diminuer cette liste, mais la NSM a établi cette liste. Bah, il vaut mieux quand même que ce soit les autorités sanitaires qui établissent cette liste que les firmes, puisque cette liste les amène à, justement, à des obligations particulières.
Notamment la rédaction d'un plan de gestion de pénurie pour les médicaments dont le manque présente un risque grave et immédiat pour les patients. Plan que n'a pas fourni depuis 2 ans le laboratoire qui fabrique le Sinemet, indispensable aux malades de Parkinson et en rupture de stock. Théoriquement, l'industriel doit identifier des sites de production alternatifs, voire des spécialités équivalentes à importer de l'étranger. Le LEM soutient ce plan. Mais pour Pierre Chirac de la revue Prescrire, ces ruptures récurrentes sont inadmissibles.
c'est vraiment un problème industriel, en fait, industriel et commercial, hein, parce que c'est quand même elles qui décident où elles vont acheter leurs matières premières. C'est moins cher d'acheter les médicaments produits à très grande échelle en Chine que de les faire faire en France. C'est ça la raison.
Enfin, c'est l'une des raisons. La Chine et l'Inde produisent en effet l'essentiel des substances actives présentes dans nos médicaments. En attendant, Merck doit payer 348 000 euros d'amende, soit 7% de son chiffre d'affaires dans cette spécialité.
Tara Schlegel, demain mercredi, le ciel restera souvent couvert. Météo France prévoit de faibles pluies sur le nord-ouest et le sud-est. C'est dans le sud-ouest et en région Rhône-Alpes qu'il y aura le plus d'éclaircies. Quelques gelées encore demain matin. L'après-midi, il fera 4 à 9 degrés de la Franche-Comté à la Normandie, 8 à 12 de la Bretagne au sud-ouest et 8 à 14 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.